Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 10 mai 2021 et on vit une époque formidable, comme diraient certains. Si les bourses mondiales étaient un être humain, ça fait un moment que l'on s'inquiéterait pour sa santé mentale. Mais depuis vendredi dernier, c'est vraiment devenu super angoissant et on pourrait carrément dire qu'il est en train de faire un burn-out et qu'il serait bon qu'on le mette quelques semaines, voire quelques mois dans un établissement médicalisé, histoire qu'il se reconnecte avec son moi intérieur et se demande ce qu'il a vraiment envie de faire de sa vie. Souvenez-vous, vendredi dernier, oui, je sais, c'était il y a un siècle et depuis, il s'est passé un truc hyper fondamental et méga important puisqu'Elon Musk était invité dans Saturday Night Live et que c'était hyper important pour l'avenir de la super trop cool crypto-monnaie la plus hype du monde, le Dogecoin, qui s'est fait démonter de 40% parce que Musk n'a pas dit qu'elle allait guérir le cancer et le Covid mais qu'il fallait être prudent en investissant dedans. Sans blague. Le patron de Tesla a aussi annoncé qu'il était atteint du syndrome d'Asperger. Alors oui, je sais qu'il n'est pas simple de se souvenir de vendredi passé, quand on a dû gérer entre deux des informations capitales comme celle-là, mais il va falloir quand même y passer. Donc, vendredi dernier, au matin, une des angoisses du marché était que les autorités annoncent des créations d'emplois bien plus élevées que prévues. On parlait même de plus d'un million, puisque les merveilleux experts du monde de la finance s'étaient mis d'accord après des jours et des jours d'analyse extrêmement poussée pour un consensus de 978 000 créations d'emplois pour le mois d'avril. Et cela faisait parfaitement sens. En mars, c'était moins que ça, mais en mars, on n'avait pas encore rouvert autant que ça aux USA et les vaccins n'étaient pas autant avancés qu'ils le sont aujourd'hui. La grande question que la communauté de la finance se posait était donc de savoir de combien le chiffre de vendredi serait supérieur aux attentes du marché. Et j'insiste sur le mot supérieur. Oui, parce que soyons clairs, depuis quelques semaines, il est extrêmement rare de voir un analyste faire une prédiction correcte. Et en général, il se gourre à la baisse. Il était donc parfaitement logique que nous attendions au moins un million de nouveaux jobs, et ceci sans compter que Biden n'arrête pas de nous chauffer avec tous les jobs qu'il veut créer. Assez paradoxal d'ailleurs pour un type qui n'a jamais bossé de sa vie. Toujours est-il que vendredi, nous étions tous hyper concentrés à 14h29 en attendant le verdict, prêt à tout vendre en cas de chiffre supérieur à 1 million, parce que tu comprends, si t'as trop de jobs, ça va être inflationniste, et pas qu'un peu inflationniste, plutôt inflationniste galopant, inflationniste à un tel point que Yellen va devoir monter les taux depuis qu'elle a remplacé Powell à la Fed. Et à 14h30, les chiffres sont sortis à 266 000 nouvelles créations d'emplois. 266 000. Pas à 926 000 ou 880 000 qui auraient été une marge d'erreur tolérable en période de post-pandémie. Mais non, le département du travail a sorti un chiffre qui est grosso modo 70% en dessous des attentes. 70%. Donc là, on n'est pas en train de se dire qu'on a oublié de comptabiliser les trois nouvelles serveuses qui ont commencé à bosser au bar du coin de la rue ou la nouvelle directrice de la recherche chez Intel. Non, non. On a fait beaucoup mieux en se ratant de 712 000 emplois. Pour vous donner un ordre d'idée, 712 000 emplois, c'est 7 stades de foot américains remplis à ras-bord. Ou alors, ça fait aussi 1300 Airbus A380. On n'a d'ailleurs jamais produit assez d'Airbus A380 pour mettre 712 000 personnes dedans en même temps. Alors d'accord, tout le monde peut se tromper, c'est pas facile de calculer le nombre d'emplois créés en période hors pandémie, mais en période de pandémie c'est encore pire et c'est pas simple d'avoir toutes les données correctes. Même le département du travail se gourre lui-même. Je prends d'ailleurs le pari que ce chiffre sera corrigé le mois prochain et probablement le mois d'après. Mais quand même, 712 000 personnes à côté de la plaque, on a sincèrement l'impression qu'ils n'ont pas compté la même chose. Les économistes et autres analystes ont dû compter des grains de raisin et le gouvernement a compté les grappes. C'est pas possible qu'ils parlent de la même chose. Les experts du monde de la finance se sont donc complètement ratés sur les chiffres des créations d'emplois et la réalité est encore très loin de la fiction dans laquelle nous vivons. Enfin, tant que l'on part du principe que le gouvernement ne ment pas, ce qui est encore un autre gros fantasme, mais passons. Le problème dans toute cette histoire, c'est quand même que ça veut dire que notre génial recovery, dont on nous rabâche les oreilles 814 fois par jour, n'est pas aussi génial que ça et que les employeurs hésitent quand même un peu à se jeter dans le grand bain. Et on peut comprendre, étant donné la visibilité quasi nulle que leur offre leur gouvernement respectif. Il y avait donc de quoi s'inquiéter. On pouvait se poser plein de questions. Pourquoi des chiffres aussi faibles? Pourquoi le rythme imprimé le mois dernier ne suit pas? Pourquoi le reste des autres chiffres sont aussi bons et que l'emploi ne redémarre pas? Et puis surtout, est-ce que l'on ne se fout pas un tout petit peu de notre gueule quelque part? On pouvait se poser des questions, c'est vrai. Mais comme dans le monde fabuleusement intelligent de la finance, un monde qui n'est jamais à court d'idées de génie, on est parti dans une autre direction. On s'est simplement dit, oui d'accord, les chiffres de l'emploi ne sont pas bons, mais ça veut aussi dire qu'il n'y aura pas d'inflation et que l'on peut donc repousser la hausse des taux au siècle prochain. La conclusion s'imposait donc d'elle-même. Il fallait bourrer la caisse et à la fin, c'est les boules qui ont gagné. Ce qui est une bonne nouvelle, hein, ne vous méprenez pas sur mes paroles. Tout ce qui peut faire monter le marché au plus haut de tous les temps est bon à prendre. Sauf que parfois, on a l'impression que le marché marche sur la tête et que tout le monde trouve ça normal. Aujourd'hui, on a une société qui publie des chiffres au-delà de nos rêves les plus fous. On va la vendre parce que tu comprends, le trimestre prochain, ça sera trop dur. Ensuite, on a des chiffres qui sortent et qui disent « l'emploi ne va pas si bien ». Mais nous, on s'en fout. On sort nos cartes de crédit, on aligne des lignes de coke sur la table du salon, on s'arrose de champagne en chantant « c'est trop cool, il n'y a pas d'inflation ». Ce qui est bien avec cette réflexion, c'est que l'on pourrait aussi se dire que dans le cas présent, ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de boulot et qui ne peuvent pas consommer. Mais au moins, ce qu'ils ne consomment pas, ça augmente pas. Et puis, ça ne reste que des problèmes de gens de Main Street. Nous, à Wall Street, on rigole parce qu'il n'y a pas d'inflation. Youpi. Alors voilà, moi je dis ça, hein, je dis rien, mais peut-être que le marché a besoin de faire un break, de partir un mois en thalasso, de respirer autre chose que l'air climatisé, de se poser des questions sur ce qu'il a vraiment envie de faire. Je sais, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que l'on est dans un marché qui ressemble de plus en plus à la bulle des tulipes, et que tout le monde ressort de là en se disant « Non, non, mais tout va bien, c'est trop génial, bien, si j'achetais un peu de Dogecoin avec mon fonds de pension pour la retraite ». Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les 712 000 emplois qui n'ont pas été créés ont quand même poussé le marché au plus haut de tous les temps. Est-ce que la bourse est la représentation ésotérique de l'économie ou est-ce que c'est juste devenu un casino légalisé qui n'a plus aucune connexion avec la réalité et avec les fondamentaux? Une espèce de jeu de l'avion que l'on ne peut pas arrêter au risque de voir le château de cartes s'effondrer? En ce matin d'automne, je m'interroge. Pour ce qui est des nouvelles du jour, l'Asie ne fait pas grand-chose. Après des chiffres de l'emploi qui ont laissé sceptique plus d'un, l'or est en train de monter gentiment dans le dos de tout le monde et le pétrole ne fait rien. On parle beaucoup de l'émission de Musk de l'autre soir, mais je ne vais pas m'attarder dessus, ne faisant pas trop dans la presse people. Et il y a aussi le fait qu'il y a de moins en moins de gens qui ont peur du crash, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et il y a aussi l'inévitable Katie Wood qui parlait sur CNBC ce week-end, comme tous les deux jours. Katie Wood a révélé que c'est le patron déchu d'Archegos qui lui avait permis de lancer ses premiers ETF. Elle a aussi déclaré qu'elle était super contente que le prix de ses titres fétiches soit en chute libre. Parce que pour elle, ce n'est qu'une indication faussée puisqu'elle sait, en majuscule, ce que ça vaudra plus tard. J'adore ce genre de déclaration qui laisse entendre que le marché a tort et que elle a raison. Et que quand le marché se rendra compte qu'il a tort, lui, tout rentrera dans l'ordre. Le dernier qui m'a dit ça a fermé son fonds dans les deux mois qui ont suivi et personne ne l'a jamais revu depuis qu'il est parti dans une lamasserie au Tibet. Côté chiffres économiques, il n'y aura rien. Côté publication trimestrielle, il y aura BioNTech, Novavax, mais aussi Marriott, Wynn et Roblox. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,2%. Et tout le monde essaye de se motiver au fait que le marché est câblé dans le mauvais sens. Et dorénavant, on cherche les mauvaises nouvelles pour que ça monte. Passez un très bon lundi, je pense que c'est pas nécessaire de vous souhaiter une bonne terrasse au vu de la situation. Dans l'intervalle, moi je vous retrouve demain pour analyser le prochain coup de génie des marchés financiers.